Caroline du Nord, aux États-Unis, l'ex-femme d'un Marine disparaît sans laisser de traces. Sans corps et sans indice significatif, les enquêteurs de la marine américaine devront travailler sans relâche pour reconstituer les événements. On trouve les restes d'une jeune femme en flammes près d'une route rurale de la Caroline du Sud. Pendant 5 ans, son identité et celle de son meurtrier resteront un mystère. En Virginie, un matelot de la marine américaine est retrouvé assassiné dans un terrain vague. Les enquêteurs devront chercher parmi ses compagnons de bord pour trouver son meurtrier. La violence fait partie intégrante de la vie moderne et les hommes de la marine n'échappent pas à cette triste réalité. Aux États-Unis, quand ceux qui ont juré de défendre leur pays commettent des actes criminels, c'est le service d'investigation de la marine américaine qui a pour tâche de les faire juger par la justice militaire. Le Jeune, en Caroline du Nord, est l'un des plus grands terrains d'entraînement des Marines américains. Mais même ici, où l'on prône l'honneur et la loyauté, la trahison et le meurtre existent. Le 27 mars 1999, le sergent Whitman Wallace signala à la police militaire la disparition de son ex-femme, Tanya, âgée de 25 ans. Leur fillette de 4 ans avait passé les derniers jours avec son père. La veille, Wallace attendait Tanya qui devait passer prendre l'enfant, mais elle ne vint pas. Ses locataires ne l'avaient pas vue et sa voiture avait disparu. Whitman déclara qu'elle était probablement partie avec un autre homme. On confia l'affaire au NCIS, le service d'investigation criminelle de la marine. Cette organisation fédérale a pour mission de protéger et de servir les membres de la marine américaine et leurs familles. L'agent spécial Robert Bratton, qui dirigeait alors l'équipe chargée des cas d'importance, commença l'enquête entourant la disparition de Tanya Wallace.
Nous étions extrêmement préoccupés par le cas de cette mère de famille très attachée à son enfant. Elle était partie sans rien dire à son entourage.
Quelques heures après le début de l'enquête, les agents apprirent qu'on avait retrouvé la voiture de Tanya. Les gardiens de sécurité d'un magasin du quartier avaient remarqué la présence du véhicule sur le terrain de stationnement. Au cours d'un examen de l'extérieur de la voiture, les experts remarquèrent des petites traces de sang humain sur une des poignées. Les agents et la police militaire se dispersèrent rapidement pour trouver des traces de la jeune mère. Malgré plusieurs heures à ratisser le quartier, ils ne trouvèrent aucun indice. On remorqua la voiture à la fourrière pour la soumettre à un examen exhaustif. Tanya traversait un divorce. Il était donc possible qu'elle fût partie de son plein gré. Les agents se rendirent chez elle pour recueillir des indices et interroger ses colocataires. L'une d'entre elles déclara que Tanya fréquentait un autre homme depuis peu. Ce dernier faisait partie de la marine et il venait tout juste de partir en mission outre-mer. Tanya n'avait laissé entendre à aucun moment son intention de partir en voyage. Depuis qu'elle avait mis un terme à sa relation avec Whitman Wallace, rien ne semblait l'inquiéter. Sa colocataire ajouta que depuis sa séparation d'avec Wallace, Tanya était plus optimiste et très excitée à la perspective de commencer une nouvelle vie. Elle était une mère dévouée. Sa colocataire ne pouvait croire que Tania ait pu abandonner son enfant de 4 ans et en laisser la garde complète à son ex-mari.
D'après les réponses de son amie, Tania n'avait jamais laissé sa fillette seule, pas même pour quelques minutes. Et elle était réticente à la laisser à la garde de son père pendant une période de temps prolongée. Nous avons donc rapidement éliminé la possibilité qu'elle soit partie de plein gré avec quelqu'un d'autre.
Avant de quitter l'appartement, les policiers recueillirent les brosses à dents et à cheveux de Tania en vue de procéder à des comparaisons génétiques, le cas échéant. Même si certains indices laissaient craindre le pire, les enquêteurs gardaient espoir de retrouver Tania Wallace saine et sauve. Jusqu'à maintenant, ils ne disposaient toutefois d'aucune preuve d'homicide. On convoqua le sergent Whitman Wallace à un interrogatoire. Ce dernier nia catégoriquement être mêlé à la disparition de Tania. Bien que leur mariage ait échoué, il aimait sa femme et leur petite fille de 4 ans. Il déclara qu'au cours de la nuit de la disparition de Tania, on lui avait assigné un travail de bureau de 23 heures jusqu'au lendemain matin. Il n'avait pas quitté son poste de la nuit. Les enquêteurs entrèrent en contact avec son assistant qui était de service cette même nuit. Il confirma que Wallace avait commencé son quart de travail à 23 heures. Mais 30 minutes plus tard, il lui avait demandé de surveiller son poste à sa place. Wallace lui avait dit que sa femme n'était pas venue prendre leur fillette et qu'il devait s'en occuper en attendant l'arrivée de Tania. Wallace quitta son poste et ne revint que 2 heures plus tard. Ainsi donc, le sergent Wallace avait menti aux agents quand il avait déclaré ne pas avoir quitté son poste de la nuit. Maintenant, les enquêteurs devraient découvrir ce qu'ils tentaient de leur cacher. Ils concentrèrent leurs efforts sur le seul indice matériel qu'ils détenaient. Une semaine après le signalement de la disparition de Tania, l'agent spécial et expert légiste Mike Maloney examina son véhicule.
On ne pouvait pas le voir de l'extérieur de la voiture car la moquette et les sièges étaient très foncés. Mais en ouvrant la portière, nous avons tout de suite remarqué qu'il y avait beaucoup de sang à l'intérieur.
La tache de sang mesurait 40 cm de long par 32 de large. Les experts découpèrent cette section de la moquette pour procéder à une analyse complète. L'ADN du sang concordait avec celui des échantillons recueillis chez Tania. À l'évidence, Tania avait subi de violents traumatismes. Mais sans corps, on pouvait difficilement soutenir qu'elle était morte. L'agent spécial Mike Maloney conçut une façon d'analyser le volume de sang perdu afin de prouver qu'elle était bien morte.
Nous savions que nous pourrions démontrer qu'elle avait perdu tellement de sang dans ce véhicule qu'elle ne pouvait plus être en vie.
Maloney devait d'abord déterminer la quantité de sang requise pour produire des taches de même dimension que celle de la moquette du véhicule. Il obtint des échantillons de moquette du fabricant de la voiture et commença à les imbiber de sang humain. On détermina qu'il fallait 1815 millilitres de sang pour créer une tache de cette ampleur. C'était presque la moitié du volume sanguin total d'un être humain. Personne n'aurait pu survivre à une telle perte de sang sans soins médicaux appropriés. Pour les agents, la mort de Tania ne faisait plus de doute. Ils croyaient que son mari, le sergent Whitman Wallace, était l'auteur de cet homicide. Ils n'avaient cependant encore aucune preuve de ce qu'ils avançaient. Les experts judiciaires du service d'investigation criminelle de la marine américaine n'avaient pas retrouvé le corps de Tanya Wallace. Seul un morceau de moquette taché de sang témoignait du meurtre de la victime de 25 ans. Les agents spéciaux du NCIS croyaient que son meurtrier était son ex-mari, le sergent Whitman Wallace. Malheureusement, il ne disposait d'aucune preuve matérielle et le suspect refusait de coopérer. Wallace s'était peut-être débarrassé des preuves de sa culpabilité. Les agents commencèrent donc à fouiller toutes les bennes à ordures à proximité de l'endroit où il vivait. Le service sanitaire avait déjà vidé les bennes. L'agent spécial, Robert Bratton, refusait toutefois d'abandonner la partie. Même si ses chances de réussir étaient minces, il appela les responsables du site d'enfouissement des ordures du camp Le Jeune.
Les responsables pouvaient nous dire où les ordures de tel ou tel jour avaient été laissées. Nous leur avons demandé de mettre de côté celles du lundi et du mardi de cette semaine-là.
L'escouade chargée de l'enfouissement des matières chimiques et biologiques trouva le site en question et commença à fouiller la montagne de détritus. Après plusieurs heures de recherche, on trouva un sweatshirt militaire vert et des vêtements féminins. Ces vêtements semblaient tachés de sang. L'analyse démontra que ce sang provenait exclusivement de Tanya Wallace. Tous les vêtements correspondaient à ceux que portait la victime au moment de sa disparition, à l'exception du sweatshirt vert.
Nous étions curieux de savoir à qui ce sweatshirt appartenait. Il était taché de part en part de sang qui l'avait traversé de l'extérieur vers l'intérieur. Nous étions donc presque sûrs que Tanya ne le portait pas le soir du meurtre. En examinant l'encolure du vêtement, de même que le tissu sous les aisselles, nous avons trouvé de vieilles cellules de peau et de la sueur.
Les experts réussirent à extraire l'ADN à partir des infimes cellules de peau. Le code génétique était celui du sergent Wallace. L'étau se refermait peu à peu autour du suspect. Les agents se rendirent ensuite au camp militaire pour y fouiller la chambre qu'il occupait. Comme Wallace devait partir sous peu, on avait soigneusement nettoyé la pièce. Les agents appliquèrent du luminol et éteignirent les lumières. Ils aperçurent alors de grosses taches de sang sur le carrelage. Les analyses démontrèrent que le sang était d'origine humaine. Les taches s'arrêtaient abruptement là où commençait le tapis. Au-delà de cette limite, il n'y avait aucune autre trace de sang. Comme tout portait à croire que Tanya avait été assassinée dans la chambre de Whitman Wallace, les agents interrogèrent les autres Marines qui vivaient dans les mêmes quartiers que le suspect.
Thanks. What do you have for me?
Quelques jours après la disparition de Tanya, Wallace s'avait rendu visite à l'un d'eux. Il lui avait fait part de son inquiétude. Le tapis de sa chambre était couvert de boue et cela ne serait pas toléré lors de l'inspection qui devait avoir lieu quelques jours plus tard. Wallace demanda à son collègue de faire un échange de tapis. Le collègue accepta. Mais une fois l'inspection faite, Wallace ne le lui avait jamais rendu. De fait, le tapis taché se trouvait encore dans sa chambre. Les agents espéraient qu'il contenait toujours des preuves de la culpabilité de Whitman Wallace. Ils le prirent donc et l'acheminèrent au laboratoire pour analyse. L'agent Maloney commença son examen.
Nous avons procédé à une analyse au luminol et constaté que la tache sur le carrelage près de la porte se poursuivait sur le tapis. Les deux parties concordaient parfaitement comme deux morceaux du même puzzle. C'était une très grosse tache. Comme on l'a découvert plus tard, ce sang avait la même origine que la tache sur le carrelage.
Les analyses génétiques permirent de démontrer hors de tout doute que le sang de Tania se trouvait à la fois sur le tapis et sur le carrelage. Les agents disposaient maintenant des éléments dont ils avaient besoin pour consolider leur dossier. Le sergent Whitman Wallace fut arrêté et accusé de meurtre. En se basant sur les preuves, les agents croient que Whitman Wallace refusait de donner la garde de sa fillette à sa femme et qu'il lui en voulait d'exiger une pension alimentaire. Le 26 mars 1999, après avoir quitté son lieu de travail, Tania s'est rendue au quartier de son ex-mari pour aller chercher sa fillette. Whitman Wallace s'est arrangé pour être là quand elle arriverait. L'enfant dormait dans la pièce voisine quand Wallace s'est jeté sauvagement sur Tania pour la battre à mort. Il a ensuite placé son corps ensanglanté dans sa voiture et s'est rendu dans un endroit isolé où il l'a enterré. Devant la cour martiale, le sergent Whitman Wallace a plaidé coupable de l'enlèvement et du meurtre non prémédité de Tania Wallace. Il a été condamné à 30 ans d'emprisonnement. Conformément à l'entente qu'il a conclue avec les autorités, il a accepté de dévoiler à quel endroit il l'avait enterré. Même sans le corps d'une victime, les agents du NCIS ont réussi à démasquer rapidement la violence meurtrière d'un sergent des Marines. En Caroline du Sud, cette fois, les investigateurs de la marine mettraient plusieurs années à faire la lumière sur le plan sordide d'un meurtrier. Le 6 novembre 1989, un automobiliste roulait sur une route isolée de Jasper County en Caroline du Sud lorsqu'il vit quelque chose qui brûlait au bord de la route. Pour éviter que les flammes ne se propagent, il s'arrêta et s'empressa d'éteindre le feu. Les flammes jaillissaient d'un grand sac de toile. À l'intérieur, l'automobiliste aperçut ce qui semblait être la dépouille carbonisée d'un être humain. Il appela le service d'urgence. Des agents du bureau du shérif de Jasper County se rendirent sur les lieux à toute vitesse. Il n'était plus possible de reconnaître la victime trouvée dans le sac. On lui avait fracassé le crâne. Le seul indice sur son identité était une chemise de nuit ornée d'une licorne. On pouvait en déduire que la victime était une femme. Selon le détective Sam Woodward de Jasper County, les enquêteurs ne trouvèrent aucun autre indice valable.
Tout ce que nous avions, c'était le corps d'une femme à l'intérieur d'un sac auquel on avait mis feu. C'était à peu près tout. Il n'y avait pas de traces de pas, ni empreintes de pneus, ni rien d'autre de ce genre.
Les policiers croyaient que l'identification de la victime les mènerait à celle de son meurtrier. Ils espéraient obtenir des indices lors de l'autopsie. Le médecin légiste détermina que la victime était une femme de race blanche, d'environ 25 ans, aux cheveux bruns foncés. Son utérus était plus grand que la normale, ce qui indiquait qu'elle avait donné récemment naissance à un enfant. Elle avait connu une fin brutale. On l'avait frappée à la tête à 32 reprises avec un objet contondant. Les policiers introduisirent les rares informations qu'ils détenaient dans la base de données nationale qui contient la description de toutes les personnes portées disparues. Ils vérifièrent également les dossiers des personnes dont on avait signalé la disparition dans la région, mais aucune des descriptions contenues dans ces dossiers ne correspondait à la victime. La seule façon de l'identifier, c'était de lui redonner un visage. Les autorités contactèrent Ted Rathbun, professeur d'anthropologie à l'Université de la Caroline du Sud. Ce dernier se rendit compte très vite que la tâche présentait un défi de taille.
On compte 22 os différents dans un crâne humain. Dans ce cas-ci, en raison du traumatisme majeur infligé à la victime, nous devions assembler 122 fragments. Certains d'entre eux étaient aussi grands que la paume d'une main, alors que d'autres mesuraient à peine la moitié de l'ongle de l'auriculaire. C'était exactement comme de tenter de compléter un puzzle en trois dimensions.
Rathbun mit 8 jours à reconstituer le crâne dans son intégralité.
J'ai pu remettre aux autorités ainsi qu'à l'artiste qui devait faire le croquis de la victime un crâne complet dont les fragments tenaient ensemble avec de la colle et des bâtonnets. Il était recouvert d'argile de façon à ce qu'on puisse le photographier sous divers angles et mettre en évidence toutes les caractéristiques de son visage.
On confia à l'artiste judiciaire Roy Pascal de la division policière de la Caroline du Sud la tâche de redonner vie au visage de la victime. Après avoir placé des marqueurs de caoutchouc à certains endroits stratégiques sur le crâne pour indiquer l'épaisseur de la chair, Pascal le photographia. Puis, il fit un dessin du visage de la victime au crayon. Quatre mois s'étaient écoulés depuis la découverte de son corps. Elle avait enfin un visage. On distribua le dessin à tous les médias et services de police de la région dans l'espoir que quelqu'un pourrait donner un nom à la victime. Malheureusement, on n'obtint aucune piste. 4 années s'écoulèrent sans le moindre progrès. On avait pratiquement abandonné l'espoir de résoudre l'enquête. Les enquêteurs croyaient bien que l'identité de la victime et celle de son meurtrier demeureraient un mystère à jamais. On avait trouvé le corps d'une femme en flammes près d'une route de Jasper County 4 ans plus tôt. Il n'avait jamais été identifié. Même si les experts judiciaires lui avaient redonné un visage, son nom et les circonstances entourant sa mort étaient encore inconnus. Puis, en octobre 1993, des agents furent dépêchés à la résidence de Cathy French. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son amie, Annie Tehan, depuis 4 ans. Au moment de sa disparition, Annie vivait avec son petit ami, Michael Palahan, un matelot en garnison à Charleston. Annie et Michael avaient eu un enfant en 1989, mais leur relation était tumultueuse. Cathy était partie vivre dans un autre état pendant la grossesse d'Annie. Après la naissance du bébé, cette dernière lui avait confié qu'elle aimerait aller la rejoindre, mais qu'elle hésitait à le faire parce que Michael l'avait déjà fait arrêter sous de fausses accusations d'enlèvement. Quelques mois plus tard, Annie l'appela pour lui demander de l'héberger, elle et son bébé. N'écoutant que son cœur, Cathy lui envoya une traite bancaire pour que son ami puisse acheter un billet d'autobus. Elle n'eut plus jamais de ses nouvelles par la suite. Comme le père de la jeune femme disparue faisait partie de la marine, l'agent spécial Jim Grabus de la NCIS accepta d'ouvrir une enquête. En raison de la relation instable entre Annie et son petit ami, il devait d'abord s'assurer qu'elle n'était pas partie de son plein gré.
Nous nous sommes dit que les tensions entre Michael Palahan et elle l'avaient peut-être poussé à s'enfuir tout simplement. Nous devions écarter cette possibilité.
En vérifiant le dossier de Michael Palahan, qui était responsable de l'armement électronique, l'agent constata qu'il était alors en garnison à la base navale d'Hawaï. Rebus appela les agents de l'île pour qu'ils interrogent Palahan.
Chief Palahan, NCIS agents Day and Smith, we don't talk to you about the whereabouts of Miss Tehan.
Ce dernier déclara que le matin du 6 novembre 1989, il avait constaté en s'éveillant qu'Annie l'avait quitté, lui et le bébé.
At what location did you see her?
Elle l'avait appelé quelques jours plus tard, mais ne lui avait pas dit où elle se trouvait ni quels étaient ses plans. Il ne l'avait jamais revue par la suite. Colin ajouta que sa mère, qui vivait à Savannah, en Géorgie, avait adopté leur fille depuis. Les enquêteurs doutaient de la véracité des propos de Polan. À leur avis, il n'y avait qu'une seule raison pour expliquer pourquoi Annie Tehan était séparée de son enfant.
Nous nous sommes dit que si elle avait voulu partir, ce qu'elle planifiait d'ailleurs de faire, elle aurait emmené l'enfant avec elle. C'était ce qu'elle désirait. Elle ne voulait pas perdre cet enfant. Nous n'avons pas mis beaucoup de temps à croire qu'on l'avait assassinée.
Pour les agents, l'auteur de ce meurtre ne pouvait être que Michael Polan. Mais jusque-là, ils n'avaient aucune preuve de ce qu'ils avançaient. Ils examinèrent des dizaines de dossiers de meurtres non résolus dans l'État. Dans l'un des dossiers ouverts en 1989, l'agent Gribas fit une découverte intéressante.
C'était le portrait d'une jeune femme dont on avait retrouvé le corps à Jasper County le 6 novembre 1989. J'ai pris la photo d'Annie que j'avais et j'ai examiné les deux côte à côte. J'ai compris alors que nous avions retrouvé Annie.
Les agents, aidés des autorités locales, commencèrent par reconstituer les faits et gestes de Polan au moment du meurtre. Ils examinèrent ses relevés téléphoniques du 6 novembre 1989. Il avait appelé à plusieurs reprises à Savannah, en Géorgie, à quelques centaines de kilomètres de chez lui. La personne qu'il appelait était son ex-femme. Pouvait-il y avoir un lien entre ces appels et le meurtre? Les policiers obtinrent les relevés des dépenses de la victime. Ils trouvèrent un coupon de caisse d'une station-service située à 40 km de là où le corps d'Annie avait été découvert. Les enquêteurs commençaient à croire que Polan avait un complice. Ils se rendirent à Miami, où vivait son ex-femme. Elle déclara qu'elle ignorait qu'Annie avait été tuée. Elle dit toutefois que Polan l'avait bien appelée vers la mi-novembre 1989. Il lui avait alors confié qu'Annie venait de le quitter et qu'il désirait qu'elle s'occupe de leur enfant. Elle accepta et se rendit à l'appartement de Polan à Charleston un ou deux jours plus tard pour prendre l'enfant. Les relevés téléphoniques et les reçus d'essence démontraient qu'elle s'y était rendue le 6 novembre, soit le jour même du meurtre. Quand venait le temps de donner des dates et des heures précises, elle se contredisait sans cesse. Les agents décidèrent de lui rafraîchir la mémoire en lui montrant les reçus.
Quand elle s'est rendue compte que nous savions qu'elle était à l'appartement au moment du meurtre d'Annie, elle a compris qu'elle était prise au piège.
Comme elle était susceptible d'être inculpée, elle accepta de coopérer. Elle déclara que Michael Polan ne désirait plus avoir Annie dans sa vie. Il voulait toutefois garder leur enfant. Comme il savait qu'Annie n'accepterait jamais de le lui laisser, il avait projeté de la tuer. Son ex-femme avait accepté de l'aider. Le 6 novembre, à l'aube, Polan l'appela pour lui dire qu'il était passé aux actes. Il avait besoin de son aide pour nettoyer l'appartement. Quand elle arriva un peu plus tard, il y avait du sang partout. Après avoir aidé Polan à mettre le corps d'Annie dans le coffre de sa voiture, elle nettoya les tapis. Ils appliquèrent ensuite une couche de peinture sur les murs pour cacher les éclaboussures de sang. Ces informations faisaient avancer l'enquête. Les agents devaient maintenant corroborer les déclarations de l'ex-femme du suspect. Elle accepta de les conduire à l'ancien appartement de Polan et de leur montrer la scène du crime. L'appartement était alors inoccupé. elle put leur indiquer à quel endroit sur la moquette gisait le corps d'Annie. Elle leur donna également une description des taches de sang sur les murs et le plafond. On n'en voyait plus aucune trace. Après tant d'années, il était peu probable d'en retrouver. Malgré tout, les experts appliquèrent du luminol un peu partout. À leur grand étonnement, le sang apparut. De plus, les taches se trouvaient exactement aux endroits indiqués par l'ex-femme de Palam. Maintenant, peut-être pouvait-on obtenir les aveux de Palam lui-même. Les agents lui tendirent un piège. Ils demandèrent à son ex-femme de l'appeler et de le faire parler du meurtre.
Avec habileté, elle a entamé la conversation en disant « Michael, ils ont découvert le corps, ils ont trouvé Annie. » Ce à quoi il a répondu « Non, ils ne l'ont pas trouvé. » C'était très incriminant. S'il avait été innocent, il aurait dit « De quoi parles-tu? Un corps? Je comprends pas. » Mais non, il a affirmé au téléphone que les policiers ne pouvaient vraisemblablement pas avoir trouvé le corps.
Trois semaines avant sa retraite de la marine américaine, Michael Palam fut mis en état d'arrestation et accusé du meurtre d'Annie Tehan. Mis devant les faits, il avoua son crime. Il voulait garder son enfant coûte que coûte. Dans la nuit du 6 novembre, il est rentré à la maison et a trouvé Annie endormie devant la télévision. À l'aide d'un objet contondant, il l'a frappée à mort. Pour camoufler son crime, il a mis le corps d'Annie dans un sac de toile et s'est rendu sur une route isolée. Il a ensuite versé de l'essence sur son corps et y a mis le feu. À la station navale de Mayport, en Floride, devant la cour martiale, Michael Palam appelait des coupables du meurtre prémédité d'Annie Tehan. Il a été condamné à 30 ans d'emprisonnement à la prison fédérale de Leavenworth. Il est courant qu'un mari ou qu'une épouse trahisse son conjoint. Mais chez les militaires, on prétend que la loyauté envers ses collègues est sacrée. Dans la matinée du 23 avril 1998, un homme qui enlevait les mauvaises herbes sur le terrain vague attenant à son immeuble de Newport News en Virginie remarqua quelque chose dans l'herbe. En s'approchant, il s'aperçut que c'était le corps d'un homme abattu à l'aide d'une arme à feu. L'homme se rendit à l'appartement le plus proche pour appeler le service d'urgence. Des policiers du service de police de Newport News furent dépêchés sur les lieux. Ils fouillèrent dans les poches de la victime à la recherche de ses pièces d'identité. Dans un portefeuille, ils trouvèrent plusieurs centaines de dollars en liquide et une carte d'identité. La victime était Stephen November, 23 ans. Ce marin était membre de l'équipage d'un porte-avions à la base navale de Norfolk. Il avait reçu 5 balles. Comme on ne trouva aucune douille sur la scène et qu'il y avait des éraflures sur ses chaussures, les policiers en déduisirent qu'on avait abandonné son corps dans ce secteur isolé après l'avoir tué ailleurs. Les résidents du quartier n'avaient entendu aucun bruit suspect. Lors de l'autopsie, le médecin légiste constata que la mort était survenue suite à une blessure à la tête infligée par un projectile de 9 mm. Les 4 autres projectiles recueillis dans la tête et la poitrine de la victime semblaient tous avoir été tirés avec la même arme à feu. Mais avec si peu d'indices et sans suspect, les policiers se doutaient bien que retrouver le meurtrier de ce marin représenterait un défi de taille. Les policiers de Newport News, en Virginie, n'avaient guère de réponse aux questions qu'ils se posaient dans l'affaire du meurtre d'un membre de la marine américaine de 23 ans, Stephen November. Ils espéraient trouver des indices en fouillant son appartement. Ils vérifièrent ensuite les antécédents de November. Un document retint leur attention. C'était le relevé de transactions de l'achat d'un pistolet 9 mm par November lui-même. L'arme qui l'avait tué était du même calibre. On fouilla à fond son appartement sans trouver la moindre trace de l'arme. Pour reconstituer les événements précédant le meurtre de November, les policiers interrogèrent ses amis et compagnons de bord. Le soldat Hector Coleman déclara qu'un de ses amis et lui se trouvaient avec November au cours de la soirée précédant la découverte du corps. Les trois hommes étaient sortis faire quelques courses. Vers 22h, November demanda à Carlos Saldana, qui conduisait, de le déposer à une épicerie. Il descendit en disant à ses copains qu'il les retrouverait plus tard après avoir fait ses courses. Il venait tout juste d'encaisser un chèque de remboursement d'impôts et avait plus de 2 000 $ en liquide sur lui. Les deux hommes virent November entrer dans le magasin et quittèrent les lieux en voiture. Coleman déclara ne pas avoir revu November par la suite. On interrogea ensuite la recrue Carlos Saldana qui conduisait la voiture. Sa version des faits ne différait guère de celle d'Hector Coleman. Mais les policiers eurent presque immédiatement l'intuition qu'il mentait. Ils demandèrent à Saldana de se soumettre à un examen polygraphique. Quand on l'informa que le test indiquait qu'il mentait, il commença à parler. Il déclara que Coleman et lui s'étaient bien arrêtés à l'épicerie dans la soirée, mais qu'ils n'étaient pas partis une fois November à l'intérieur. La victime était remontée à l'arrière et ils étaient repartis tous ensemble. C'est alors qu'Hector Coleman brandit un pistolet de 9 mm et fit feu sur November. Selon Saldana, le mobile du meurtre était l'argent. Il ignorait où se trouvait maintenant l'arme, mais il savait qu'elle appartenait à Stephen November. Carlos Saldana et Hector Coleman furent tous deux arrêtés et accusés de meurtre. Coleman nia toute implication dans la fusillade. Avec les aveux signés de Saldana, les policiers se disaient que cette affaire était déjà classée. Mais un mois avant le procès, le compagnon de cellule de Saldana déclara détenir des informations à son sujet. Carlos Saldana s'était vanté d'avoir tué Stephen November. Il avait dit à son compagnon de cellule qu'il avait rejeté le blâme sur Hector Coleman pour s'éviter la peine de mort. Comme ce compagnon de cellule avait déjà donné des informations fiables aux policiers, il n'y avait aucune raison de douter de lui maintenant. Le témoin à charge avait avoué être celui qui avait appuyé sur la détente. Le procès devait avoir lieu quelques semaines plus tard et les enquêteurs craignaient de perdre cette cause. La seule solution qui se présentait à eux, c'était de gagner du temps pour consolider l'enquête. Les autorités de Newport News abandonnèrent les accusations contre Hector Coleman et Carlos Saldana et confièrent l'affaire au JAG, le bureau du procureur de la marine qui était co-responsable de l'enquête. À l'aide de quelques rares indices, on devait maintenant prouver lequel des deux témoins disait la vérité. Les détectives du JAG demandèrent l'appui du service naval d'investigation criminelle de Norfolk
en Virginie. L'agent Bill Heath fut assigné à l'affaire. La première étape de son travail consistait à déterminer si Carlos disait vrai en affirmant qu'Hector Coleman avait commis le meurtre dans la voiture.
Nous voulions réexaminer la voiture et vérifier si les déclarations de Saldana étaient plausibles. Une fusillade pouvait-elle avoir eu lieu dans ce véhicule ainsi qu'il nous l'avait décrit? C'était notre principal objectif.
L'agent spécial Mike Maloney retira la banquette arrière où Stephen November était présumément assis lors du meurtre. En découpant le coussin, il s'aperçut que la mousse de polystyrène était imbibée de sang. L'analyse d'ADN permit de conclure que c'était bien le sang de Stephen November. Par la suite, on procéda à l'analyse de la trajectoire des projectiles. L'agent Maloney voulait savoir d'où ils provenaient. On assit un mannequin sur le siège arrière de la voiture de Saldana, vêtu de la chemise de Stephen November, trouée par les projectiles. Grâce aux taches de sang sur le siège, qui permettaient d'évaluer la position de la victime, l'agent Maloney constata que les projectiles provenaient tous du siège du passager avant. Comme Carlos Saldana conduisait la voiture le soir du meurtre, les agents pouvaient en déduire que c'était Hector Coleman qui était assis du côté du passager. Mais pour l'agent Heath, ces informations ne suffisaient pas. Il fallait retrouver l'arme du crime, vraisemblablement le pistolet de calibre 9 de November. Après avoir introduit le numéro de série de l'arme dans la base de données nationale, Heath reçut un appel. Des policiers de Brooklyn, dans l'État de New York, avaient arrêté un homme pour un cambriolage. Il avait en sa possession l'arme de Stephen November.
J'étais très content d'avoir trouvé le pistolet. C'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Je devais maintenant déterminer si c'était l'arme du crime.
Un examen balistique permit de confirmer que l'arme de November avait servi à tirer les projectiles qui l'avaient tué. L'agent Heath se rendit à New York pour savoir comment l'arme avait abouti à cet endroit. Le présumé cambrioleur en détention déclara qu'il avait acquis cette arme d'un ami. Il donna à contre-cœur son nom et son numéro de téléphone. Les agents le contactèrent. Comme il craignait pour sa sécurité, il accepta de parler, mais seulement à un endroit isolé, dans un parc près de chez lui. On lui montra des photos des suspects. Il pointa celle d'Hector Coleman, un ami d'enfance. C'était lui qui lui avait vendu le pistolet de calibre 9. Coleman lui avait d'ailleurs confié qu'il s'en était servi pour tuer quelqu'un et qu'il cherchait à s'en débarrasser. Même si les agents ignorent pourquoi Carlos Saldana s'est vanté à son compagnon de cellule d'avoir appuyé sur la détente, ils ont pu faire la preuve incontestable que c'est Hector Coleman qui a tué Stephen November. Les agents croient qu'avant d'entrer dans l'épicerie, November a demandé à son ami Hector Coleman de garder son arme. Quand ils sont repartis, Coleman a dit à November qu'il avait envie de tirer des coups de feu dans les airs. Il lui a ensuite demandé de s'assurer qu'il n'y avait pas de policiers en vue. Dès que le jeune marin a eu le dos tourné, Coleman lui a tiré dessus. Il lui a ensuite pris les $2,000 de son remboursement d'impôts. Puis il a demandé à Saldana de trouver un endroit isolé où se débarrasser du corps. Par la suite, Saldana a déclaré que Coleman avait menacé de le tuer s'il parlait à quiconque du meurtre. Carlos Saldana a plaidé coupable de complicité pour meurtre et à deux chefs d'accusation pour avoir fait de fausses déclarations sous serment. Il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement. Le procès devant la cour martiale d'Hector Coleman a été fixé au 18 août 1999. Il a été trouvé coupable de vol ainsi que du meurtre de Stephen November. On l'a condamné à l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Personne n'est à l'abri des crimes violents. Mais lorsqu'un meurtre est commis au sein de la marine américaine, ce sont les agents du service d'investigation criminelle de la marine qui doivent s'assurer que justice soit faite.